toujours Radio Liberté, toujours 89,4 MHz. Je vous rappelle que les deux ouvrages dont nous parlons ce soir, c'est Une promenade de santé de Christian et Olga Baudelot aux éditions Stock, et Les nuits de la main courante de Jean-François Lahaye, donc écriture au travail, également aux éditions Stock. Alors, moi, je vous ai découvert Jean-François Lahaye avec ce livre qui m'a absolument passionné. Et bon, on en parlait avant de commencer l'émission. Quand j'ai vu le sujet du livre, et puis bon, j'ai regardé le sommaire, je me suis dit, ah tiens, une maternité, ça me plaît bien. Et puis, en fin de compte, je me suis fait avoir, parce qu'à la limite, c'est peut-être le chapitre que j'ai le moins aimé, et j'ai été fascinée par celui du gardien d'immeuble. Alors, d'emblée, si vous voulez, Jean-François Lahaye, on va préciser pour nos auditeurs ce qu'est une main courante, et puis on va parler de comment elle est faite, cette main courante, parce que je crois que c'est très important de parler de ces écritures au travail.
La main courante, c'est la main courante de police, gendarmerie, commissariat, des gens viennent déposer un récit, un différend, une dispute, un petit vol, et c'est consigné au commissariat, et ça n'a pas de conséquences juridiques ni judiciaires. Hein. C'est un espace où il n'y a aucun texte sur les mains courantes de police qui existe depuis 1850. Donc c'est un espèce de dépôt d'écriture, une tradition, une habitude, et on dépose des plaintes. Ce n'est pas des plaintes, on dépose des mots, des phrases. C'est un constat, voilà. Et donc, à partir de cette image, je me suis demandé où on consignait des écritures, où y avait-il des écritures sans conséquences immédiates. Et donc, c'est des cahiers de liaison, des cahiers de couloir, des cahiers de surveillance, des cahiers d'entrée de hall, des cahiers de tournée, de virée, dont des cahiers de gardien d'immeuble dans des HLM.
Alors, par qui, pour qui une main courante?
C'est-à-dire?
Par qui est-elle écrite et pour qui?
Les mains courantes sont écrites par des professionnels ou des métiers plus ou moins qualifiés. Souvent, ce sont des écritures à 2, 3, 4, 5 professionnels, dans un espèce d'entre-nous. C'est-à-dire, on écrit entre nous ce cahier, mais ça reste entre nous, il n'est pas question de le donner, il atteste de rien juridiquement, il n'a pas à être retransmis spécialement à la direction. C'est pour s'accorder professionnellement. Souvent, ces écritures, c'est pour faire des liaisons entre jour et nuit. Donc, toutes les institutions où il y a des gens jour et nuit, il y a tous les passages des équipes de jour et de nuit. Donc, on retransmet. Et tout en retransmettant, on écrit des formules professionnelles, mais en même temps, des émotions. Oui. On écrit des impressions. On a quelques suggestions ou des inquiétudes, beaucoup d'inquiétudes, des petits dangers, des petits signalements, des intentions. Et donc, au total, l'ensemble des écritures, c'est un immense espace d'attention. C'est ça qui est assez étonnant. C'est que en France, il y a énormément d'espace de la crèche au lieu de la maison de retraite. Il y a les mêmes types d'écriture. L'enfant qui naît et la personne de 90 ans, on va avoir ces cahiers d'écriture, des cahiers de liaison, des cahiers de liaison avec la famille, où il y a une immense attention. Et simultanément, dans ces attentions, il y a de la veille, de la surveillance, du contrôle, et évidemment du signalement qui peut dépasser les cahiers et arriver en justice éventuellement.
Alors, de cette écriture, qui est donc une écriture non officielle, entre guillemets, qui est une écriture utilitaire au départ, on s'aperçoit très très vite, au travers des différents exemples que vous citez, Jean-François Lahaye, que cette écriture utilitaire va beaucoup plus loin. On sera amené à voir quelques exemples de ce qui pourrait être simplement une transmission d'informations, domaine médical, monsieur occupé de donner les médicaments à tel machin, etc., tel patient. Hein. On voit que très très vite apparaissent des annotations qui vont au-delà du simple geste et du simple rapport d'exécution.
Oui, tout à fait. Si on revient au livre Une promenade de santé, on pourrait suggérer à Christian et à Olga Baudelot d'écrire et de demander à tous les endroits où ils ont séjourné d'envoyer le dossier médical et les dossiers, toutes les écritures faites sur cette histoire, leur histoire. On aurait un tome 2 et tout à fait une autre histoire.
Oui, avec des écritures complètement différentes.
Et surtout des prismes, plein de technicité, plein de taux de données, et en même temps, madame, monsieur, Voilà comment ils envisagent les choses, comment on peut faire avec eux. Faites attention avec madame. Non, faites attention avec lui parce qu'il n'est plus. Non, mais elle. Donc, on aurait un deuxième tome qui serait les prises d'écriture des professionnels, des prises qui essayent d'objectiver, alors que le livre ici, c'est quand même des plis subjectifs, et on aurait des écritures d'objectivation, mais avec cette prise subjective. Les écritures des mains courantes ne peuvent marcher que sur ces prises subjectives-là. C'est-à-dire comment les hommes et les femmes, dans ces centres, dans ces centres d'hébergement, dans ces cliniques ou dans les soins, agissent, réagissent, se pensent eux-mêmes, se pensent comme médecins d'eux-mêmes, ou résistent, ou font des bras d'honneur, manteaux, comme c'est dit dans le livre avec justesse. Et donc, il y a les déformations des écritures des mains courantes sont produites par les déformations des subjectivités des gens. C'est-à-dire comment les gens résistent, pour le dire très simplement. Comment dans un centre d'hébergement, à 18h, il ouvre à 18h, à la mie de pain, comment les gens rentrent et par moment se disent oh ben non, finalement je ne vais pas dormir ici, je m'en vais, maintenant je vais dormir, en pleine nuit ils s'en vont, mais non, la porte est fermée. Donc, bon, ça n'a de cesse de résister. Et donc la main courante, c'est cet espace sensible d'écriture de tous les incidents, tout ce qui ne va pas.
Qui permet aussi de.
Et qui permet de calmer. Un des effets de l'écriture, c'est de calmer les conflits, c'est de ralentir l'action, c'est de stabiliser tous les incidents, et c'est intéressant en ce sens-là. Écrire, c'est pas parler, quoi.
Alors, on voit qu'il y a différents types d'approches pour ces mains courantes. Vous évoquez le centre d'hébergement, donc, et puis vous évoquez le gardien d'immeuble. Je dirais ça, on peut le mettre d'un côté. Et puis, il y a également le centre de post-cure, enfin de cure d'ailleurs, de sevrage alcoolique, où là, c'est une écriture complètement différente. On a l'impression qu'on change complètement d'interlocuteur, parce que le gardien écrit en son nom. Les éducateurs du centre d'hébergement écrivent aussi en leur nom. Les assistantes sociales des visites à domicile aussi. Par contre, au centre de post-cure, c'est autre chose. Ce n'est plus la personne qui travaille qui parle, quasiment. C'est presque que la famille. Moi, j'étais très étonnée par ce discours utilisé, parce que j'ai trouvé que c'était un discours assez stéréotypé. Je me suis sentie très mal à l'aise par rapport à ce centre de cure.
Il faut bien... C'est très difficile, un centre de cure. Vaut mieux ne pas connaître les données, les chiffres. Quand on connaît les données, les chiffres, c'est à 80%. Les gens viennent 21 jours à l'hôpital. Ils sont suivis par une armée de professionnels. Il y a des ateliers matin, midi et soir. Il y a des ateliers de parole, il y a plein de choses. Donc il y a plein d'écritures. Mais on sait qu'il y a plus de 80% de gens qui vont tenir 15 jours, 3 semaines, 1 mois, et qui vont reboire, reconsommer excessivement. Et donc tous les professionnels le savent. Et pourtant ils doivent agir. On sait que cette personne va revenir dans 6 mois, dans un an.
Donc on a l'impression que le professionnel s'efface complètement derrière le discours de la famille ou derrière le discours du patient, qui est aussi un discours quasiment plaqué, quoi, parce qu'ils disent qu'on a envie qu'ils disent, quoi, qu'il est malade de l'alcool, que ceci, que cela. Donc on a l'impression très bizarre par rapport à...
Mais disons que je pense que par rapport aux autres textes, ce chapitre, il est encombré, il y a beaucoup plus d'écriture, il y a beaucoup plus de lettres des familles,
c'est dilué,
il y a l'écriture des hommes eux-mêmes, on leur demande d'écrire le dernier jour de cure.
On leur demande, c'est ça, c'est le côté un peu forcé parfois.
Oui, mais c'est ce qui existe dans plein d'endroits, même si on ne leur demande pas d'écrire, en sortant de quelque part, on vous demande, alors comment était le séjour? Comment vous pensez dans ce séjour? Vous l'avez vécu comment? Alors, les gens disent, raconter sa cure, c'est une injonction qu'il y a dans toutes les institutions. Là, on leur demande d'écrire. Évidemment, ça en rajoute, parce qu'ils ont 2-3 heures, ils cherchent leurs mots, etc. Mais par rapport aux autres documents, le gardien d'immeuble, l'assistante sociale, la visite à domicile, ils écrivent seuls, mais ce n'est qu'une apparence. Parce qu'ils sont encerclés de professionnels.
Tout à fait.
Le gardien d'immeuble, il a toute sa hiérarchie au-dessus, il a les techniciens de l'autre côté, il a les autres gardiens. Il n'écrit pas seul, il est seul et pas seul.
Le gardien d'immeuble a une position très particulière. J'aimerais bien qu'on développe un petit peu, si vous voulez bien. D'abord parce que, effectivement, il est là en position intermédiaire par rapport à sa hiérarchie qui n'est jamais quasiment présente sur le terrain, dont il se doit de faire appliquer tous les règlements, toutes les consignes, tous les problèmes de loyers impayés ou autres. Donc il y a une espèce d'instance supérieure qu'on ne voit jamais, mais qui le bombarde d'informations et de demandes. Et puis il y a le quotidien de l'immeuble, de sa population, dont il fait partie. Et je crois que ça le place vraiment en position complètement différente par rapport aux autres mains courantes. C'est que lui, il est acteur de la main courante tout en étant sur place et en habitant sur place. Donc il est dans une position très délicate.
D'abord, il est dans un milieu complètement ordinaire. Mm-hmm. Les autres mains courantes sont quand même des institutions. Ensuite, il est logé sur place. Trois, il a très peu de formation. Il est plus âgé, ils ont toujours plus de 40 ans, ils ont fait un autre métier avant. Et ensuite, il doit exercer avec délicatesse une surveillance ordinaire de l'ensemble des locataires pour plein de raisons. Et entre autres, des raisons de courrier, de colis, de gestion de flux, dont il doit savoir si les gens sont là ou pas. Et donc, il en connaît 10 fois plus qu'on le croit. Par obligation professionnelle pour assurer les flux. Et donc l'histoire de sa main courante, c'est l'histoire d'une tournée comme un facteur. Il y a, le facteur fait sa tournée et tous les gardiens font leur tournée le matin, l'après-midi, en fin de journée. Et dans leur tournée, ils repèrent des incidents, des petites alarmes, des inquiétudes. Et ils rentrent au bureau et ils se disent « qu'est-ce que je fais ?»
Qu'est-ce que j'écris,
qu'est-ce que je garde pour moi, qui je mets en alerte, bon j'attends, j'attendrai demain, j'appelle la gendarmerie, non je pourrais peut-être attendre plus tard, on verra, on attend l'incident plus grave, on va négocier plutôt avec les gens pour éviter de faire appel à une instance supérieure, donc il passe son temps à négocier l'ordre ordinaire de la vie en HLM, c'est-à-dire les flux, les passages, les portes mal fermées, les ampoules disparues, le nettoyage, un rapport à la saleté très
important,
très très présente. Et donc il est mal, c'est un métier, oui, il est mal, il a plusieurs carnets, il écrit et ses incidents techniques, et sur un autre carnet, les entreprises auxquelles il peut faire appel, et son petit carnet, je veux dire, intime, comme tous les professionnels.
Où il y a tous les gamins du coin.
Où il fait ses petites notations personnelles sur les prénoms des garçons qui sont repérés déjà par la justice. Par où dire, il sait que X, Y, Z, etc.
Mais vous évoquiez tout à l'heure, Jean-François Lahaye, la fonction de contrôle que peut avoir la main courante. Je crois que c'est très parlant aussi avec ce gardien d'immeuble, parce que je citerai un exemple pour nos auditeurs qui je crois, est assez parlant. C'est ce gardien d'immeuble qui est amené à voir des déchets sur le palier parce qu'on a balancé un sac poubelle, qui regarde et qui s'aperçoit qu'il y a un courrier d'assurance parce que la personne n'a pas payé, donc n'est plus assurée. Donc il note dans son petit carnet, monsieur machin n'a plus d'assurance car n'a pu payer. C'est quand même pas rien.
Ce n'est pas rien et c'est très multiplié. C'est vraiment ce que j'appelle de l'infrasignalement. C'est-à-dire, c'est en réserve dans le carnet, au cas où. Et toutes ces écritures, une grande partie de ces écritures, c'est au cas où. En cas d'urgence, si le danger arrive, je saurai que cette personne n'a plus d'assurance. Et éventuellement, si je veux faire de l'infrasignalement, je vais dire au voisin, vous savez, vous êtes bien assuré, vous ? Parce que tout le monde n'est pas bien assuré dans l'immeuble. Donc c'est la gestion des rumeurs. Tout le monde n'est pas bien assuré dans l'immeuble. Donc après, on sait que les gens vont chercher qui n'est pas assuré et vont essayer de le convaincre, c'est obligatoire. Ouais. Et avant d'appeler l'office HLM, et donc si ça marche pas, il appelle la direction en disant
moi, il y a toute cette procédure informelle avant.
C'est de l'infrasignalement avant le signalement. Et ça marche assez bien, si je peux me permettre. C'est comme les mains courantes de police. Contrairement à ce que l'on croit, il y a un caractère apaisant de l'écriture dans les mains courantes.
On sent très bien qu'il arrive à désamorcer certaines situations, rien qu'en en l'écrivant.
Calme, ça calme. Et les mains courantes, les 80% des mains courantes n'ont pas de suite, parce que les gens repartent du commissariat, j'ai posé ma main courante. J'ai posé une main courante. Donc les gens...
Non, c'est vrai, ça calme. Mais moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'extraordinaire qualification de tous ces personnels considérés comme non qualifiés, qui, par ce travail d'écriture, bon, objectif des situations, alors ça les apaise, ça leur permet de comprendre, ça leur permet d'analyser. Et tu appelles ça écriture au travail, c'est exactement ça, mais en même temps, je veux dire, ils font plus que le travail. C'est-à-dire que dans ces dépôts de paroles, d'écriture, pas partout, mais dans beaucoup de cas, on a le sentiment qu'ils font leur travail, donc il y a des trucs de signalement, mais c'est une interprétation assez personnelle aussi, très, c'est une appropriation personnelle de leur travail, et ils font plus que leur travail. C'est-à-dire que, et en même temps, c'est les conditions dans lesquelles leur travail est bien fait. C'est-à-dire, mais c'est pas du travail prescrit. C'est-à-dire qu'on est totalement en dehors du travail prescrit.
C'est ça, c'est traduire, c'est interpréter, c'est
et c'est tout le, enfin, la gestion, tout, oui, et la gestion humaine, des règles, du jeu sur les règles, et avec une intelligence extraordinaire, si tu veux, de ce qu'il peut faire, de ce qui peut être fait, etc. Et par exemple, là, sur le centre de polyhandicapés, là, les types sont protégés du suicide, avec, tu vois, tous ces risques-là, et en même temps, comment c'est apaisant aussi, c'est-à-dire qu'ils ont une vision, bon, c'est un risque, mais je veux dire, on ne va pas dramatiser, on va essayer de voir, etc., de prendre toutes les précautions.
C'est-à-dire que l'écriture dépasse l'écriture du métier,
voilà.
Ça rétroagit sur, ça a plein d'effets, quoi. Ça a plus d'effets, voilà. En dehors. L'écriture se fait bien seule, mais ça rétroagit, ça a des effets en dehors de l'écriture.
Ça prouve qu'il n'y a pas de travail simple.
Et l'exemple du gardien est frappant parce que dans son lien là, il pourrait mettre simplement les entreprises qu'il a contactées, les pannes qu'il a constatées, la nouvelle circulaire qu'il doit appliquer, mais il va au-delà. C'est vrai qu'il fait un véritable travail de lien, mais de lien pour sa communauté et pas du tout pour la société HLM.
Et c'est lié au fait qu'il habite sur place aussi.
Tout à fait.
Le fait de partager les samedis et les dimanches sur place éventuellement et les soirées fait qu'il est à moitié habitant. Donc c'est comme le médecin de soi-même de tout à l'heure. Là, on est le gardien de soi-même. On est aussi locataire. Et donc il est très proche. Il est et locataire et gardien.
Oui, et puis je trouve qu'il arrive à prendre un recul par rapport à sa fonction qui est absolument fantastique. Quand les gamins lui disent « c'était pas toi qui étais visé », mais ça, de toute façon, il le comprend très très bien que c'est pas lui qui est visé, mais sa fonction et sa position, sa représentation. Je crois qu'il a une distance absolument incroyable.
Tout à fait. Et puis, alors, bien sûr, tous les gardiens n'écrivent pas tout, tous les gardiens n'ont pas plusieurs carnets, mais vous allez chez un gardien, vous voyez sur son bureau... Ça vole de tous les côtés. Mais ils ont toujours des espaces. Ces métiers ont l'obligation d'avoir ce moment de réflexivité sur qu'est-ce que je fais ce soir pour demain. Enfin, il s'est passé ça, événement. Ils sont toujours devant le surgissement. Et comment je peux absorber le surgissement? Comment je peux régler tout en sachant qu'il peut peut-être pas tout seul le faire? Et donc, ces carnets permettent de voir comment ils pensent la chose, quoi. À la fois, c'est des micro-stigmates et en même temps de la proximité et de la compassion.
Il y a beaucoup de compassion.
La surveillance marche avec la compassion.
Et en même temps, moi j'avais été très très frappé par le livre de Anne-Marie Arborio que tu cites, sur les aides-soignantes. Elle a fait un travail d'observation très long, etc., sur le métier d'aide-soignante, qui est en principe le métier le plus déqualifié, par femme de ménage, à l'hôpital. Et nous, on s'en est aperçu, quand on a été hospitalisé, c'est un boulot fondamental, parce que c'est la seule personne avec laquelle on a un contact constant, régulier, qui est vraiment... Les médecins, on les voit peu, les infirmières interviennent une fois ou deux fois par jour, etc. Mais sans ça, tout le reste, c'est les aides-soignants. Et comment c'est absolument fondamental et qu'elles ont la relation avec les malades. Et comment elles sont très peu formées. Et que cette formation, elles l'acquièrent la plupart du temps sur le tas, en discutant entre elles, en voyant les malades, etc. Et la plupart des métiers là dont tu fais état dans ton bouquin, c'est à peu près ce genre de boulot qui sont considérés comme des petits boulots, des sales boulots, des trucs complètement déqualifiés. Et là, on s'aperçoit en les analysant comme tu le fais, de l'intelligence nécessaire pour l'accomplir dans les règles et du supplément, personnel, affectif, du don d'eux-mêmes qu'ils doivent consentir pour faire uniquement leur boulot bien. Et nous, on a eu, tu peux raconter l'histoire qu'on a eu avec les étoiles, c'était dans un Mira, il y en a une qui faisait juste son boulot. Donc, tu vois, on était traités comme des choses.
C'est complètement lié aux relations personnelles.
Oui, mais de toute façon, là, dans le centre de polyhandicapés, je crois que c'est très clair. Ouais. Ce sont les aides-soignantes qui parlent et les parents s'adressent à elles parce que celles qui touchent le corps, qui sont en proximité au quotidien, qui connaissent vraiment la personne, qui l'accompagnent, ce sont elles. Et c'est vrai que c'est pas l'information sur la maladie génétique ou sur quoi que ce soit que les parents ont besoin d'avoir. C'est savoir comment leur proche a pu vivre la journée, ce qui s'est passé, et il n'y a qu'elles pour pouvoir raconter ça, parce qu'elles sont à ce niveau. Elles sont...
Dans toutes les institutions, les parents, les visiteurs, les proches s'adressent au métier le plus proche corporellement de la personne. Pourquoi ? Parce que rencontrer le professeur pour entendre la même la litanie du diagnostic qu'on connaît par cœur depuis 8 ans, et on ne voit pas pourquoi il changerait le lendemain matin. Ce qui intéresse et inquiète les proches, et le souci des proches, c'est qu'est-ce qui s'est passé hier, avant-hier, aujourd'hui.
Est-ce qu'il a bien mangé ?
Est-ce qu'il y a du confort ? Est-ce qu'il sourit ? Est-ce qu'il pleure ?
Est-ce qu'il souffre ?
Exactement, c'est une attention très 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 sensible qui n'intéresse personne. D'où l'existence de ces mains courantes, qui sont abandonnées et qui sont abandonnées et au bout de quelques années jetées parce que ça n'a aucun intérêt. Toutes ces écritures n'ont aucun intérêt. Institutionnellement parlant et politiquement parlant, ça n'a aucun intérêt. Et pourtant, c'est une mine, dans ces écritures-là, qu'on a l'espace sensible de cette relation d'aide, de cet affreux mot, relation d'aide, c'est atroce, ou de cet affreux mot prise en charge. Prise en charge, c'est horrible, prise en charge, alors on voit la prise.
La charge.
Alors, mais c'est complètement traversé par le droit. Enfin, le mot charge et prise en charge, c'est une notion juridique. Et on est tellement traversé par le juridique qu'on a plaqué cette expression prise en charge. Alors que là, dans ces cahiers, on a des prises subjectives, c'est pas la même chose. C'est des subjectivités qui prennent, qui sont en prise, qui essayent de prendre, qui essayent de modifier un peu le cours des choses.
Et tu dis là, à l'instant que c'est du matériel qui vaut rien, qui est jeté, etc. Mais en même temps, tu as eu du mal
à y accéder.
Oui, parce que c'est quand
Ils sont quand même réservés.
C'est complètement. Les professionnels, les 5-6 professionnels disent une, c'est nos cahiers, deux, ça concerne des gens, on ne peut pas vous les communiquer. Trois, il n'y a rien dedans. 4, qu'est-ce que vous allez faire de ça? 5, de toute façon, on les a mis à la poubelle il y a 3 ans. Tout est fait pour zéro.
Oui, non, mais ils sont protégés quand même. Parce que c'est les rationalisations quand même qui disent, quand ils disent ça vaut rien, etc., ça vous intéressera pas, ils savent pas.
Ces écritures, elles sont écrites vraiment dans un entre-nous, comme une intimité.
Oui, il n'y a pas de précaution d'écriture. Je crois que, Christian Baudelot évoquait le problème de la compassion, on va en parler, avec cet exemple justement des éducateurs du centre d'hébergement où là je crois que c'est assez clair aussi parce que ils se lâchent, le boulot est tellement dur qu'ils peuvent pas. Il faut que ça explose. Alors, c'est vrai que montrer ça à quelqu'un d'extérieur qui ne fait pas partie de cet univers, ça peut être perçu de manière très très péjorative. Et je crois qu'il y a cette peur-là aussi.
Tout à fait. Il faut accepter, en entrant dans le livre, qu'on rentre dans une écriture invisible, une écriture qui ne nous regarde pas. Elle n'a pas été écrite pour nous. Et c'est très important de comprendre que c'est vraiment pas pour nous. Et si on y accède, il faut accepter que ce milieu de l'intérieur, par moments, rit, se moque, sortent des gros mots, des plaisanteries plus ou moins. Parce que dans tout métier, il y a besoin d'une place pour le rire. Comme tout à l'heure, dans la promenade de santé, on a besoin de rire par moments. Et le livre nous fait par moments, heureusement, rire, parce que c'est nécessaire. Et je trouve ça c'est très touchant de voir comment les professionnels entre eux, pour s'habituer, pour apprivoiser la réalité, doivent rire par moment de la réalité. Peut-être qu'apprivoiser oblige à rire par moment pour pouvoir avancer avec les gens, Et donc la relation d'aide, elle est faite comme ça. Elle est faite de ce mouvement de compassion, de proximité, d'approche, et en même temps d'un mouvement c'est insupportable. C'est pénible, on est fatigué ou il y en a marre. Et donc, par moment, du recul et de l'infrasignalement, avec tel ou tel, on ne peut plus, Donc, il y a toujours ce double mouvement de rapprochement et de fatigue, de lassitude et de recul en disant non, on ne peut pas continuer comme ça. Donc beaucoup d'institutions produisent, elles produisent du rapprochement et du rejet, quoi. Hein, c'est pas d'une dégreffe, mais c'est des greffes d'individus. Il y a plein de gens qui disparaissent. Dans un centre d'hébergement, on fait disparaître aussi des gens. Dans plein d'endroits, on fait disparaître des gens. Donc c'est ça qui est le plus troublant et le plus touchant dans ces écritures-là.
Oui, et puis ces écritures, on l'a vu aussi, permettent de gérer l'insupportable, que ce soit les événements de délinquance divers et variés que peut connaître le gardien, ou les événements extrêmement violents que peuvent vivre au quotidien ces éducateurs. C'est vrai que face à ce qui est insupportable, ne peut pas être dit, ne peut pas être contenu, il y a l'écriture.
C'est ça. Là, par exemple, depuis 2-3 ans, il y a des cellules dans tous les départements ou les régions, je crois que c'est les départements, des cellules de signalement qui portent un nom très joli, ce sont des cellules de préoccupation. Si vous êtes préoccupé, c'est un texte de loi avec des décrets et tout, si vous êtes préoccupé d'un mineur, d'un enfant, dans n'importe quel espace, vous pouvez appeler cette cellule et écrire, voilà ce que j'ai vu, entendu, voilà, cet enfant m'inquiète, ou telle situation m'inquiète. Donc vous voyez, on est dans un régime, être inquiet de tel ou tel ou tel enfant, vous voyez, ce régime très bas, très sourd, c'est pas du signalement, c'est avant, c'est attention. Donc, depuis que ces cellules existent depuis 2 ans, il y a des milliers de lettres qui arrivent dans tous les départements, et le taux d'infrasignalement
a flambé,
complètement augmenté. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que les écritures, évidemment, font surgir, les écritures font surgir les dangers. C'est pas les dangers qui produisent des écritures de signalement, ce sont les écritures qui suscitent. Si vous voulez, la deuxième dimension de toutes ces écritures, c'est qu'il y a beaucoup d'injonctions d'écriture en même temps. C'est des écritures en vrac, c'est des écritures découpées, non organisées, pas enseignées, donc c'est très, apparemment très libre, très désordonné, et en même temps, il y a quand même beaucoup de petites injonctions de dire jusqu'au RAS,
oui.
Rien à signaler. Je remonte à l'étage, minuit, RAS. Mais RAS, rien à signaler. On est 2h du matin, RAS. Hein, c'est la tournée du facteur, la tournée du gardien. Toutes les tournées, oui, j'ai bien regardé, RAS. Hein, donc, plus on fait monter les RAS, plus autour des RAS, il y a de l'infrasignalement. Des dangers. Et c'est comme ça que les dangers se rendent visibles comme ça. Dans ces cellules départementales, on a une accumulation folle, particulièrement des collèges et des lycées. J'ai jamais vu autant de jeunes garçons et filles en danger dans les collèges et des lycées. Ce que j'ai évidemment du mal à le percevoir, mais voilà, vous voyez, l'écriture fabrique est aussi une machine, une fabrique.
Je crois qu'il y a un exemple qui est assez parlant, qui est cette jeune fille de 15 ans qui a des rapports sexuels avec un majeur. Délinquant, ouais. Entre guillemets, ouais. Donc tout de suite un état d'alerte. Et puis quand on se renseigne, quand on va lire une autre main courante, un autre cahier de liaison
qui concerne le majeur,
ben on s'est complètement désamorcé.
Complètement, parce qu'on découvre un garçon qui s'est transformé, qui s'est engagé.
Une sorte d'éducateur,
voilà, un petit héros quelque part et tout, et il y a deux mains courantes et c'est deux visages complètement différents. Et ça, c'est intéressant. C'est les diffractions des visages et des regards et donc toutes les cellules d'infrasignalement, c'est sans arrêt, ces cahiers sont pleins de chocs, d'images contradictoires, mais c'est intéressant parce que c'est que des reflets, des attentions. Il y a une injonction d'attention, c'est ça que je pense. Ces écritures nous montrent qu'il y a une injonction d'attention. Vous devez être attentif envers autrui, mais bien plus quand vous avez ce métier d'attention envers des personnes, de cette fameuse relation d'aide, vous devez écrire votre attention dans votre relation d'aide, de plus en plus. Là, j'ai découvert des cahiers récemment dans des centres de personnes âgées en Bretagne, c'est dans la presse, les personnes âgées sont prises en photo, et elles ont avec eux le cahier de liaison avec elles pour leur famille. Alors c'est écrit par tout le monde, par elle, hein, et on donne ça aux familles qui passent de temps en temps, et comme ça, on leur délivre, voilà comment s'est passée la semaine. C'est très touchant, parce qu'il y a de l'auto, il y a de l'injonction d'écriture. Comme dans le centre de cure, il y a de l'injonction d'écriture. Et c'est l'écriture, l'injonction d'écriture produit de l'auto... est censé produire de l'autocontrôle, de l'auto... tout à l'heure, le médecin de soi-même, se regarder soi-même,
attention.
S'examiner soi-même, connaître, se connaître soi-même, se dire soi-même, dire ses émotions. Donc, vous voyez, ce double mouvement. À la fois, on peut se dire, oui, il y a beaucoup de vigilance, d'attention. Les attentions montent, se développent. Et en même temps, les attentions sont doublées d'injonctions. Donc, vous voyez, c'est toujours à double détente, le problème de l'attention.
Moi, en lisant ce livre, tu donnes l'impression que l'injonction produit la surveillance, etc. L'écriture produit le problème. Moi, je trouve qu'il y a les deux. Il y a aussi une attention à autrui. Qui n'est pas du tout de la surveillance policière, ni du signalement. À la fois pour le bien du service, le bien des personnes, etc. Il y a les deux.
Tout à fait.
C'est pas surveiller et punir tout le temps, quoi.
Non, c'est pas du tout surveiller et punir, parce que très souvent, j'utilise. Il y a une attention forte et il y a des émotions, il y a des sentiments.
Oui, exactement. Dans le centre d'hébergement, c'est très parlant parce qu'avec tous ces SDF qui débarquent, qui sont dans les états pas possibles et tout. Alors oui, il y a la punition. On ne vous redonne pas la carte, on reprend la carte, vous ne pouvez pas revenir. Mais je trouve qu'ils ont une compassion à l'autre qui est absolument fantastique. Je les trouve absolument géniaux.
Moi, c'est ce qui m'a frappé.
Ils ont une humanité pour ces gens qui n'ont même plus d'identité, qui ne sont c'est vraiment le dernier contact humain, quoi. Ils les considèrent comme des êtres humains à part entière, comme des interlocuteurs et non pas comme des gens qui vont dégager le lendemain matin.
Et ça, personne ne les oblige à faire ça.
Voilà, tout à fait.
Ils écrivent et je pense que l'écriture leur permet aussi de légitimer ce truc-là. Mais moi, ce qui m'a énormément frappé, c'est... la compassion, la bonté, l'attention, l'attention à autrui, quoi, et le respect d'autrui.
Oui.
On peut faire une lecture plus noire.
Et ça m'a touché d'autant plus que dans celui de cette élève infirmière à la maternité, j'ai eu l'impression inverse. J'ai eu l'impression d'un discours mécanique où sont rapportées effectivement les situations des femmes, mais sans rien, sans qu'il y ait pas ce plus, justement. On sent qu'il se passe quoi que ce soit. C'est l'est encouragé, l'a bien pris, lui est dit de faire le petit chien, l'a pas bien fait. J'ai trouvé ça.
C'est parce qu'en 1962, et qu'on est plus. C'est le seul moment où on est dans, j'allais dire, une archive historique, dans le sens où j'ai pas pu y aller en 62, j'ai vu personne. Enfin, vous voyez, donc il y a aussi un effet de distance temporelle. Ça fait plus de 40 ans. Oui, donc.
Oui, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas cette préoccupation à autrui.
Oui.
Aussi.
Les autres lieux, j'y suis passé. Je connais bien. Tout ne passe pas par l'écriture. Apparemment, tout ça. Mais c'est aussi parce que j'ai vu, entendu. Oui.
Je voudrais juste poser une question professionnelle et technique. Pas du tout. C'est-à-dire que pour obtenir, si tu veux, c'est des pots d'écriture. Et bon, parce que tu indiques que tu connais extrêmement bien, le contexte. C'est-à-dire, tu ne fais pas seulement passer le papier. Tu mets combien de temps as-tu fréquenté ces différents lieux que tu observes
pour s'introduire dans un lieu, être un peu toléré, un peu accepté et arriver à convaincre très lentement. Qu'éventuellement ce serait possible au moins de les lire juste une demi. Il faut 2, 3 mois, 4 mois, le temps de. C'est un petit pas. Et l'issue peut être négative. Mais si on prend le temps, ça marche, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que les professionnels commencent à penser qu'après tout, ça sert peut-être à rien, c'est des écritures entre nous, normalement ça se fait pas, mais que peut-être après toutes ces discussions, c'est pas inintéressant. Ah, vous trouvez des choses dans nos écritures, dites-nous. Alors, je dis, voilà, ça, c'est...
Non, mais tu les connais tous.
Mais oui, je dirais personnellement. C'est au moins 4 mois, mois, avec surtout une issue incertaine, parce que ça m'est arrivé voilà. La meilleure figure, ça a été dans un hôpital, un centre de cure, assez rapidement, en 2 mois, le chef de service m'a dit, voilà mon bureau, voilà le bureau où il y a toutes les archives, je ne suis pas là jeudi, venez que le jeudi. Mm-hmm. Donc moi j'y allais tous les jeudis, vous pouvez ouvrir toutes les armoires et je vous fais confiance. Et donc, bon, c'est du pain béni, mais c'est exceptionnel.
Et quel retour vous avez eu après lecture du livre? Est-ce qu'ils l'ont lu?
Non,
et qu'est-ce qu'ils,
pas pour l'instant, pas non, pas, j'ai pas eu de retour. Il y a des professionnels qui connaissaient déjà ce que je faisais avant, donc ils, bon, mais ceux qui me connaissent pas du tout n'ont pas encore lu l'ouvrage pour l'instant.
Mais c'est intéressant.
Mais oui, c'est un aveu, il faut faire quelques aveux dans cette émission, non? Je sais pas. Non, mais j'ai vraiment beaucoup de plaisir à essayer d'approcher un espace, un milieu, un couloir. Des gens, des archives, des papiers, et faire accepter une idée que dedans pourrait ça aide à réfléchir. J'aime beaucoup parce que je trouve qu'il y a toujours un mouvement réflexif. Tous les professionnels sont très demandeurs toujours d'avoir des membres extérieurs qui arrivent et qui leur disent ah ben on pourrait tout simplement discuter sur des petits morceaux provisoirement, etc. Donc par exemple je fais des séries photographiques et ensuite avec les photos des photos dans une maternité, plein d'écritures sur tous les murs. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est que toutes ces écritures sur les murs? Qu'est-ce que c'est qu'une institution où tous les murs sont écrits de règles, de règlements, de doses, de chiffres? Et voilà, c'est intéressant. On a plein de documents sous les yeux, mais on ne les lit jamais parce qu'on n'a pas besoin de les lire. Parce que le problème pratique des métiers, c'est demain matin à 8h ou à 9h.
Il faut faire, hein.
Voilà. Et c'est intéressant. Les règles sont affichées, les écritures sont là sur les murs, mais l'exercice, il faut l'exercer. C'est pour ça que j'aime assez Foucault, Michel Foucault, parce que ce mot d'exercice chez Foucault est très important. Qu'est-ce que c'est qu'exercer? Exercer, c'est pas appliquer une règle qui est sur le mur, c'est pas vrai. C'est plus compliqué. C'est de l'expérience, c'est des échecs, ou des trucs mal foutus, c'est des errements, c'est des adaptations. Et ça, c'est intéressant dans ces écritures-là. Ces écritures-là sont des exercices au sens fort. Mmh. C'est-à-dire que les gens s'écrivent, ils écrivent sur une réalité, un événement, un surgissement. Et bien sûr, ils écrivent sur eux-mêmes. C'est en même temps des miroirs. On les voit, ils se regardent. Ils se regardent en train de travailler. Quand ils ont fini d'écrire, ils se voient dans l'action. Et donc, c'est des écritures qui agissent sur celui qui écrit, qui agissent sur celui qui va lire et relire, et qui va co-agir, réagir sur les autres qui sont absents et présents, les proches, les autres patients, etc. Donc, c'est du minuscule, c'est de l'invisible, c'est du petit, et en même temps, ça a des retentissements assez forts sur les professionnels, sur eux-mêmes, leur relation à autrui, sur la prise en charge, sur la prise subjective eu égard à la prise en charge. Et c'est ça qui me plaît le plus, c'est ce mixage entre les gens qui viennent là, comme ça, et il faut s'en occuper. J'aime beaucoup, c'est une scène archaïque pour moi, comment s'occuper de quelqu'un dans cette asymétrie terrible, qui est toujours, c'est toujours effrayant. Dans une institution, c'est toujours effrayant, l'asymétrie. Et en même temps, comment faire? Comment les gens font, quoi, et comment les gens écrivent ce qu'ils font.
Oui. On arrive à la fin de cette émission. Jean-François Lahaye, Les Nuits de la Main Courante, Écriture au Travail, c'est chez Stock. Et Christian et Olga Bodlot, Une Promenade de Santé, L'Histoire de notre Grève, c'est également chez Stock. Je vous remercie en tout cas tous les trois d'être venus ce soir. Et puis j'espère une prochaine fois.
Merci.
Merci bien.
Merci beaucoup.
Ah oui, j'ai pas annoncé. Donc, les prochaines émissions, on est tellement dans cette lac. Dans 15 jours, je vous propose de retrouver deux interviews que nous avons fait. Une interview de Karine Resset pour son dernier roman chez L'Olivier. Et puis une interview de Dominique Rousset pour un livre qui est paru chez Stock, dont j'ai totalement oublié le titre, mais qui est un superbe livre, et ça s'appelle Le goût du miel. Voilà, on leur a donné le goût du miel à propos de l'immigration clandestine, entre guillemets, et de comment ça se passe. Un très très beau livre. Et dans deux émissions, nous retrouverons Marilyn Desbioles, qu'on retrouvera avec plaisir pour une biographie de Pincemain qui est assez étonnante, qui est un véritable travail d'écriture, et c'est avec plaisir vraiment que je la retrouverai, Marilyn Desbioles. Un premier roman de chez Stock qui s'appelle Monsieur le Directeur. Et le troisième invité, c'est quelqu'un qu'on aime bien aussi sur cette antenne, c'est Hervé Hamon, qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir, avec un roman feuilleton consacré à mai 68. Donc ce sera beaucoup de bonheur aussi cette émission, voilà, pour les émissions à venir. Puis ça nous amènera tranquillement au mois de juillet, où nous vous proposerons d'écouter une interview qu'on va faire la semaine prochaine de Marie Didier. Et pour un recueil de nouvelles paru chez Gallimard. Voilà, d'ici là, restez à l'écoute de Radio Libertaire, 89,4 MHz, et puis à très bientôt sur cette antenne. Au revoir.